Écoutez aujourd'hui une émission présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, heureux de vous retrouver à l'écoute. Merci pour votre fidélité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelques minutes avant le commencement de cette émission, nous étions à notre poste, Sylvie à la technique et votre serviteur au micro. Et Sylvie de m'annoncer « dans une minute ». Et le regard fixé sur l'horloge, elle a regardé les secondes s'égrener. Et nous voilà en cours d'émission. Ce jour, nous parlerons de plusieurs comptes à rebours. Les sportifs sont attentifs, avant le départ de la course, au décompte vocal effectué par le starter. 4, 3, 2, 1, partez ! Car celui qui se laisserait distraire perdrait de précieuses secondes. Et il y a aussi les comptes à rebours que nous visualisons sur toutes sortes d'écrans, soit pour précéder un départ ou au contraire, lors d'un match, de foot, de rugby ou autre, pour décompter le temps restant avant le coup de sifflet final. La parole de Dieu nous relate quelques événements révolus qui, en leur temps, ont eu leur compte à rebours. Ces événements, annoncés prophétiquement, ont eu leur accomplissement au temps fixé par Dieu. Dans la période qui a précédé le déluge, l'Écriture nous fait connaître un constat divin concernant les pensées des hommes. Je lis Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais au milieu de cette génération pourrie, il se trouve un homme droit qui conduit sa vie sous le regard de Dieu. Alors que la décision du jugement divin est prise, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. La lettre aux Hébreux nous rapporte ceci. Je lis Hébreux chapitre 11 verset 7, version Bible du Semeur. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Nous comprenons aisément que la construction de l'arche, un bateau de 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur, avec 3 étages, ait pris du temps. Bien que le terrible décret du jugement soit arrêté par Dieu, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous précise ceci. Dieu a fait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, c'est-à-dire qu'il a attendu avant d'exécuter la sentence. Et dans la deuxième lettre, l'apôtre Pierre dit au sujet de Noé qu'il a été un prédicateur de la justice, c'est-à-dire qu'il appelait ses contemporains à mener une vie juste. Mais Noé n'a pas été entendu. Incrédulité et moquerie ont été les seules réponses à ces avertissements, jusqu'au jour où Jésus a fait référence à l'époque de Noé, non comme à une légende, mais bien comme à des faits avérés. Il s'en est servi pour annoncer son retour, événement dont nous parlerons plus avant dans le cours de notre émission. Voici ce que Jésus a dit. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 26. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Le compte à rebours, qui a duré des mois, voire des années, a eu son terme le jour où Noé est entré dans l'arche. Et l'Écriture précise, puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Cela nous apprend que la patience de Dieu, même si elle se prolonge des années durant, la patience de Dieu a ses limites. Autre compte à rebours révolu, la naissance de Jésus. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, précise ceci. « Mais, quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. » Cet événement, la naissance du Fils, avait été annoncé par le prophète Ésaïe. L'évangéliste Matthieu nous relate les faits en ces termes. Je lis, chapitre 1, versets 18 à 23, Bible du Semeur. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Je lis verset 22. « Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Ce compte à rebours a commencé plusieurs siècles auparavant. Le prophète Michée, pour sa part, a désigné le lieu où se produirait cette naissance, Bethléem. Or, Marie et Joseph résidaient à Nazareth, en Galilée. Et le Seigneur, qui veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse, va mettre dans le cœur de l'empereur Auguste d'ordonner le recensement de tous les habitants de l'Empire. C'est ainsi que Joseph et Marie ont quitté la Galilée pour se rendre en Judée, à Bethléem précisément, car ils étaient tous deux de la famille de David. Pendant qu'ils étaient sur place, Marie a donné naissance à son fils premier-né. Fin du compte à rebours et annonce par un ange du Seigneur de la bonne nouvelle à des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs en ces termes. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre courte émission, évoquer tous les comptes à rebours mentionnés dans les Écritures. Les exemples que nous citons, ceux qui sont révolus, ont un but tout simple, celui de souligner que ce que Dieu annonce d'avance a toujours son accomplissement, et cela pour nous inciter à croire, et si j'ose dire, à prendre Dieu au sérieux. Nous verrons un autre exemple après cette page musicale.
Oh,
la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le prophète Jérémie a annoncé au peuple un décret divin. Ce décret intervient après de longues années de patience et de rappel à revenir à lui. Je lis chapitre 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Au chapitre 52, verset 28, il est écrit « Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. La septième année, Nebuchadnezzar amena en captivité 3023 juifs, dont le jeune Daniel et ses trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Et 70 ans plus tard, nous lisons ceci dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année du règne de Darius, de la dynastie des Mèdes, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. La lecture de cette prophétie de Jérémie a fortifié Daniel, qui s'est engagé dans une prière fervente d'une très grande intensité. Bien-aimé, lire la parole de Dieu fortifie notre foi, stimule notre piété et nous montre la voie. Aussi, je vous recommande la lecture du texte relatant la prière fervente que Daniel a adressée au Seigneur. Elle est relatée au chapitre 9 du livre de Daniel. Et si l'on peut dire, la fin du compte à rebours est décrite dans le livre d'Esdras au chapitre 1er. Portons maintenant notre regard vers l'avenir. Les humains ont, de tout temps, été portés à connaître l'avenir, d'où le succès croissant des astrologues et autres cartomanciennes et de l'horoscope. Bon nombre de personnes ne commencent pas leur journée de travail sans avoir lu leur rubrique. Dieu est le seul qui connaisse l'avenir, car il est le seul être omniscient. C'est en cela qu'il se distingue de tout autre. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu lance un défi aux divinités étrangères. Je lis Ésaïe chapitre 41, verset 21 et suivant. Vous, les dieux des nations, venez présenter votre cause. Apportez vos preuves, dit le Seigneur, le roi de Jacob. Ou bien, annoncez-nous l'avenir, et nous saurons ce qui arrivera. Oui, annoncez-nous ce qui va se produire, et nous connaîtrons alors si vous êtes vraiment des dieux. Faites donc seulement un peu de bien ou de mal, pour que nous en soyons tous les témoins admiratifs. En réalité, vous êtes moins que rien, et votre activité est plus que vide. C'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. Et Dieu, si vous me permettez l'expression, enfonce le clou pour dénoncer la futilité qu'il y a à consulter les astrologues et autres cartomanciennes. Je lis Ésaïe chapitre 47, verset 13. Tu t'épuises à consulter les astrologues. Eh bien, qu'ils se présentent et qu'ils viennent te sauver, ces astrologues qui observent les astres, annonçant tous les mois ce qui doit arriver. Ils auront le sort de la paille, le feu les consumera, ils n'échapperont pas aux flammes. Tel sera le sort de tes sorciers que tu prenais tant de peine à consulter depuis ta jeunesse. Ils partiront à l'aventure, chacun de son côté. Aucun ne pourra te sauver. Ces choses ont été évoquées en détail dans une précédente émission. Le texte et l'écoute en replay sont disponibles sur le site web de FM Évangile 66, rubrique « Émission du mardi 10h », auteur Elios Michel, titre de l'émission « Occultisme ». Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Internet, le texte peut être envoyé sur simple demande. Nous allons parler maintenant de l'événement attendu par tous les chrétiens et dont le compte à rebours a commencé le jour de l'Ascension. Il s'agit du retour de Jésus. Avant d'examiner les Écritures à ce sujet, écoutons une nouvelle page musicale.
Le Seigneur est de retour, alléluia. Saviez-vous qu'il reviendrait, alléluia. Croyez-vous en son amour, alléluia. Qui ne vous déçoit jamais, alléluia. Tous les moqueurs nous disaient, chaque fois en se riant, quand va-t-il donc arriver, jour de son avènement. Le ciel n'est pas resté sourd, alléluia. Aux prières des affligés, alléluia. Le Seigneur est de retour, alléluia. Car il fait ce qu'il promet, alléluia.
Alléluia.
Le Seigneur est de retour, alléluia. Saviez-vous qu'il reviendrait, alléluia. Oui, chantez ce grand amour, alléluia. Qui ne vous déçoit jamais, alléluia. Tous les moqueurs ont pleuré, mais du temps de leur vivant, ils l'ont toujours rejeté, c'est bien trop tard à présent. Le Seigneur est de retour, alléluia. Et il va nous emmener, alléluia, au pays de son amour, alléluia. Avec lui à tout jamais, alléluia. Avec lui à tout jamais, alléluia.
Le retour de Jésus. Lui-même a annoncé cet événement à venir. Je lis, Évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Certaines personnes ont vu dans cette parole une manière poétique d'évoquer la mort. Il n'en est rien. Cela est vite compris quand on rattache ces paroles aux autres textes de l'Écriture. Voici ce qui est écrit en relation avec le jour de l'Ascension. Acte chapitre 1er verset 10. Les apôtres avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Comme il est monté, il descendra. » Et voici ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, quelle espérance extraordinaire! Oui, elle est source de consolation lors de la perte d'un être cher. Le retour de Jésus et la résurrection de ceux qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu, qui y est associé, nous assure que les retrouvailles seront douces. Cette espérance est aussi une grande force face aux persécutions auxquelles sont exposés fréquemment les chrétiens, et pas uniquement dans des pays très divers, quant aux régimes politiques ou religieux qui les dirigent, car elles peuvent aussi se perpétrer au sein des familles toutes proches. Mais, au lieu d'anéantir la foi chrétienne, comme c'est le but poursuivi à travers ces actes de violence, ils l'affermissent. Bien-aimés, les textes qui annoncent le retour de Jésus sont au double de ceux qui ont annoncé sa naissance, c'est-à-dire sa première venue. À Bethléem, c'est le Sauveur qui est venu, l'homme de douleur mentionné par le prophète Ésaïe. Dans les airs, c'est en Seigneur que Jésus revient. En fait, il vient accueillir l'ensemble des croyants de tous les siècles, c'est-à-dire l'Église, son épouse. Et il nous introduira dans ses appartements, comme cela est évoqué dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Quel ravissement ! Alléluia ! Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul rappelle la résurrection de Christ et la garantie de notre espérance, notre propre résurrection, où, versets 50 à 54, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, pour ceux qui meurent, le corps passe par un retour à la poussière, tandis que ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement de l'Église recevront instantanément le corps glorifié, semblable à celui de Jésus ressuscité. Lorsque nous dormons, nous perdons la notion de temps, et c'est au réveil, grâce soit à la pendule ou à la lumière du jour, que nous pouvons évaluer le temps écoulé. Pendant que nous sommes dans cette vie, nous nous réveillons dans ce corps de chair que nous habitons, avec l'usure du poids des ans. Si nous devons passer par la mort, alors nous nous réveillerons avec le corps glorifié, susmentionné, dans l'instant qui suit, quelle que soit la durée entre notre décès et la résurrection. Comme le précise 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Quittez ce corps et demeurez auprès du Seigneur. » La belle au bois dormant, dans le conte de Charles Perrault, s'est endormie, comme l'on sait, et 100 ans se sont écoulés avant que le baiser du prince ne vienne la réveiller. Lorsqu'un homme rend son dernier souffle, quand il s'endort du sommeil éternel, il entre dans l'éternité, et la notion de temps est tout autre. Bien-aimé, le Seigneur est proche. Es-tu prêt pour cet avènement ? Après avoir évoqué son retour, Jésus a laissé aux siens plus qu'un conseil, une recommandation, un impératif. C'est ceci, Matthieu chapitre 24, versets 42-44. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Rahab, la prostituée qui habitait Jéricho au temps de Josué, nous montre l'exemple quant à la manière de se tenir prêt. Les espions de Josué qu'elle a couverts ont passé un accord avec elle, et comme signe d'alliance, elle devait placer un cordon rouge à sa fenêtre. Dès leur départ, elle a placé le cordon à sa fenêtre. Elle était prête. Peu importait le temps à courir avant l'arrivée des armées de Josué. De même, si nous sommes au bénéfice du sang de Jésus, nous sommes prêts. Régulièrement, depuis quelques décennies, certains succombent à la tentation de fixer une date au retour de Jésus. Or, l'Écriture est formelle. Jésus a déclaré « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Malgré toutes les supputations et allégations humaines, dont les seuls effets sont dans un premier temps d'inspirer la peur à certains et ensuite la moquerie à d'autres, le compte à rebours court dans le ciel. Alors la question vitale pour toi, bien-aimé, est celle-ci. Es-tu prêt ? Il est un compte à rebours personnel à chaque individu, celui de nos jours. Personne n'est maître de son souffle. La faucheuse n'envoie pas de préavis. Ceux qui sont prêts pour le retour du Seigneur sont, a fortiori, prêts pour la mort, car, ayant donc été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si le choix nous était donné, comme le souligne l'apôtre Paul, nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Dans cette attente, celle de nous trouver dans la présence du Seigneur, est-elle la fiancée qui aspire à la rencontre du futur époux et aux noces, nous disons avec l'Esprit de Dieu, « Viens, Seigneur Jésus !» Bien-aimé, si ce n'est déjà fait, il est urgent pour toi de te préparer à la rencontre de ton Dieu, de te réconcilier avec lui, car tu ne sais pas à quel moment ton âme te sera redemandée. Crois simplement et nourris ton âme avec la parole de Dieu. Amen.